Une semaine d'actualité. Pierre-Édouard Deldic.
Bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle exploration d'une semaine d'événements grâce au reportage de la rédaction. Nous partirons pour les États-Unis, l'Iran, le Mali par exemple ou le Soudan, car vous le savez, l'actualité africaine est aussi au cœur de l'émission. Et nous allons revenir sur les grands titres de l'actualité en compagnie de Yann Mince, notre confrère et ami du magazine Alternatives économiques. Mais tout de suite, avant de commencer notre tour du monde, ayons une pensée émue pour les lycéens français qui ont passé lundi l'épreuve de philo du bac. Reportage à Paris de Laurence Théo.
Il y a ceux qui sont détendus comme Thomas, lycéen qui culmine à 1m80 et qui tient entre ses doigts une cigarette éteinte. Il a choisi le travail, divise-t-il les hommes.
C'est un sujet assez classique, en plus d'actualité. Donc c'était pas mal, avec ce que je connaissais un peu, ça allait très bien.
Il y a ceux qui n'ont pas foncé tête baissée comme Blanche, regard clair et joue piquée de taches de rousseur, qui s'est penchée sur le texte.
Je l'ai lu 3-4 fois avant de commencer à bien comprendre, parce que c'est vrai qu'au début, j'ai l'impression que vraiment on voit un pâté de 20 lignes, et après, plus on lit, et plus on comprend, et c'est là que ça devient vraiment intéressant.
D'autres encore ont cité des tas de philosophes.
J'ai cité Marx, bien sûr, en priorité. J'ai parlé d'Hegel, en parlant des premières sociétés qui ont commencé à travailler, j'ai parlé de Hobbes, j'ai pu parler d'Aristote, de Kant, de Bergson, d'Anna Arendt, il y a beaucoup de philosophes qui ont parlé du travail, du coup.
Et puis, il y a les fins stratèges.
Mon objectif en philo, c'était de ne pas perdre de points, parce que personnellement, je ne suis pas un grand philosophe, donc je voulais juste pas perdre de points avec ça.
Après, on a fait des simulateurs de maths. On sait que même si on a 5, on a notre bague, donc ça rassure.
Enfin, il y a ceux qui ont des préoccupations très concrètes.
Là, je vais aller manger parce que j'ai bien faim.
Et pour les plus sérieux, cap sur les révisions en histoire-géographie, la prochaine épreuve.
Une semaine d'actualité donc, merci de votre fidélité, à retrouver aussi sur votre moteur de recherche préféré, sur le site de la station et sur l'application RFI Pure Radio. Bonjour Yann Mince.
Bonjour.
Merci d'être à ce micro, je suis ravi de vous retrouver comme à chaque fois. Le bac de philo, ça vous rappelle quelques souvenirs?
Pas trop mauvais.
Ah bon, c'était non, ça m'étonne pas de vous.
Le bac de philo, c'était plutôt un bon souvenir, c'est plutôt les épreuves scientifiques étaient un mauvais souvenir, or j'étais en bac scientifique.
Embêtant. Donc je conseille à ceux qui nous écoutent et qui préparent le bac de philo de l'année prochaine, du coup, d'écouter Idées chaque dimanche à 17h10 sur RFI où nous parlons beaucoup de philosophie. Ferdinand, qui nous écoute à N'Djamena, est ravi de vous revoir à ce micro.
Eh bien, je suis ravi de saluer Ferdinand.
À nouveau, il n'aura jamais l'émission, dit-il. Je sais que vous aimez le foot, la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations qui a commencé hier. Vous inspire un commentaire? Qui va la gagner?
Moi, j'espère toujours que ce soit le meilleur qui gagne, pas forcément le plus populaire. Et j'aime bien que ce soit des outsiders. Je suis pas sûr que dans le cas présent, ce soit le cas, mais j'aime bien que ce soit des équipes un peu surgies, pas de nulle part, mais presque.
Par exemple?
Bon, par exemple, j'ai cru comprendre que le Zimbabwe jouait ce soir. J'ai cru comprendre aussi, en écoutant RFI, qu'il avait peu de chance, mais je lui souhaite, en tout cas, de gagner.
Mais dites-moi, vous m'inquiétez, Yann, vous commencez à vous intéresser au football?
J'écoute RFI, et RFI parle de la CAN.
Sept jours dans le monde.
Et commençons notre tour de la planète. Sans surprise, Donald Trump a annoncé mardi à Orlando, en Floride, qu'il serait donc candidat à un second mandat de président. Reportage d'Anne Corpé.
Nous allons conserver la grandeur de l'Amérique et c'est pourquoi ce soir je me tiens devant vous pour lancer officiellement ma campagne pour un second mandat en tant que président des États-Unis.
C'est avec quasiment le même slogan qu'en 2016 que le président entend emporter un second mandat. Il dit vouloir conserver cette grandeur qu'il estime avoir rendue à l'Amérique. Sur scène, il vante son bilan économique mais ressort aussi les bonnes ficelles de sa précédente campagne, les emails d'Hillary Clinton, le danger de l'immigration, la mauvaise foi de la presse et cette nouvelle menace, le socialisme.
No matter. Quel que soit le label qu'ils utilisent, le vote pour les démocrates en 2020 est un vote pour le socialisme radical et la destruction du rêve américain.
Donald Trump diabolise l'opposition, évoque Joe Biden l'endormi, Bernie Sanders le fou, et revient finalement sur le slogan qui a fait son succès en 2016.
Together,
ensemble, nous allons rendre sa grandeur à l'Amérique.
Great again. Thank you, Orlando. La foule est conquise et confiante, comme Marianne qui porte l'indispensable casquette rouge aux couleurs du président.
Il va gagner. Il y a encore plus d'enthousiasme qu'en 2016. Imaginez.
La course au second mandat est donc officiellement lancée, même si au fond, bien qu'installé à la Maison-Blanche, Donald Trump n'a jamais vraiment cessé d'être en campagne.
Vous avez peut-être reconnu un air des Rolling Stones, une chanson célèbre, « You can't always get what you want », pour être précis. C'est une musique, un air que Trump a repris déjà il y a 4 ans pour sa campagne. Et il faut préciser que les Rolling Stones n'apprécient pas vraiment que leur musique soit récupérée par le président américain. On le sait, la tension monte entre les États-Unis, justement, de Donald Trump et l'Iran. L'armée américaine a précisé mercredi ses accusations contre l'Iran, donc dans l'attaque du tanker japonais Kokuka Courageous, en assurant avoir récupéré des indices matériels et des empreintes qui démontrent, selon elle, l'implication de Téhéran. Et mercredi, l'Iran a annoncé avoir abattu un drone américain à Téhéran. Tirvash Ghazi.
C'est par un communiqué publié sur leur site que le gardien de la révolution, l'armée d'élite iranienne, a annoncé avoir abattu un drone de type Global Hawk, non loin de la province de Hormozgan, qui borde le détroit stratégique d'Hormuz. Ce drone américain vole à haute altitude et mesure près de 40 mètres. Cette nouvelle escalade intervient une semaine jour pour jour après l'attaque de deux pétroliers en mer d'Oman. Washington avait accusé Téhéran d'être à l'origine de l'attaque de jeudi dernier. L'armée américaine a également affirmé que Téhéran avait tenté alors d'abattre un drone américain dans la zone. L'Iran a démenti être à l'origine de l'attaque contre les deux pétroliers. Il ne fait pas de doute que l'attaque d'aujourd'hui va encore aggraver les tensions entre Téhéran et Washington, qui a déjà décidé d'envoyer 1000 soldats supplémentaires dans la région. Washington avait déjà envoyé sur place des bombardiers B-52 et un porte-avions. En abattant un drone américain, Téhéran veut montrer qu'il a les moyens de faire face aux forces américaines.
La crise entre les États-Unis et l'Iran est évidemment à suivre dans nos journaux et sur le site de la station RFI.fr. Yann, d'abord parlons de l'annonce d'une seconde candidature de Trump, tout sauf une surprise.
Oui, ça, effectivement, tout le monde se doutait que cet homme-là voudrait rester 4 ans de plus à la Maison-Blanche. Et en l'état actuel, personne ne peut dire qu'il n'y arrivera pas. Je veux dire que les démocrates n'ont pas choisi leur candidat. Je suppose
mais
que
y
la personne...
Il y en a beaucoup.
Il y en a quand même, a priori, 3 qui se détachent. Joe Biden, ancien vice-président d'Obama. Bernie Sanders, qui était le candidat déjà contre Hillary Clinton aux primaires. Et puis Elizabeth Warren, qui est originellement une universitaire et qui a basculé, si je puis dire, dans la politique. Maintenant, j'étais assez d'accord avec la dernière phrase du reportage. Je crois qu'effectivement, Donald Trump n'a jamais cessé d'être en campagne. Et une partie de ses déclarations qui semblent parfois contradictoires, outrancières, surtout contradictoires, en fait, sont adressés uniquement à son cœur d'électorat. Il a l'air persuadé que s'il cultive ce cœur d'électorat, s'il arrive à le garder, il arrivera à être élu, parce que globalement, ce qui s'est passé la dernière fois, les gens qui sont républicains, mais pas très favorables à Trump, sont quand même plus antidémocrates que ça, et donc ils finissent par se rallier, on va dire, les modérés finissent par se rallier à Trump, parce qu'ils veulent pas voter démocrate. Donc, il a cultivé son cœur de cible. Maintenant, la question est de savoir si la situation économique des États-Unis restera ce qu'elle est.
Et sociale, comme on dit aussi, aujourd'hui.
Et si, effectivement, notamment la guerre commerciale qu'il a déclenchée contre la Chine, n'aura pas des conséquences pour les consommateurs américains. Pour un certain nombre de producteurs américains, il fait très attention, par exemple, à compenser les pertes des fermiers américains, parce que les Chinois ont fait des mesures de rétorsion à ces hausses de tarifs dans le domaine agricole qui frappent les exportations américaines de soja. Donc, Trump est obligé de mettre de l'argent du côté des agriculteurs. Est-ce que ça suffira ? Pour l'instant, moi, je pense que c'est beaucoup trop tôt pour avoir une idée.
Alors, la crise, les tensions entre les États-Unis et l'Iran, là, qui nous écoute à Dakar, veut savoir si les États-Unis vont aller jusqu'au bout pour faire tomber le gouvernement iranien, écrit-il. Et si oui, les Iraniens ont-ils les moyens de se défendre ?
Il y a deux questions différentes dans cette affaire. Est-ce que les Américains iront jusqu'au bout ? Je pense que la volonté de Trump, et c'est lié à la question précédente, c'est autant que possible de ne pas faire la guerre. Et je crois qu'il sait que sa base, une partie de sa base, enfin sa base est au-delà dans la société américaine, n'a pas envie de guerre étrangère, n'a pas envie de choses qui, où des boys se font tuer, qui coûtent extrêmement cher, comme l'a coûté la guerre en Irak et la guerre en Afghanistan, qui ont été extrêmement coûteuses. Je pense que les Américains n'ont pas envie de ça. Donc Trump a essaye par les sanctions de faire rendre gorge à l'Iran. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on empêche les Iraniens d'exporter du pétrole et d'autres choses, l'économie iranienne va s'effondrer, l'opinion publique iranienne sera très mécontente et donc elle va renverser le régime. Je ne crois pas du tout, ça n'a jamais marché dans le passé. Les États-Unis ont déjà essayé ça avec Saddam Hussein en Irak, ça n'avait pas marché, il avait fallu faire la guerre précisément pour renverser Saddam Hussein. Et du coup, le risque, c'est effectivement que sur une escalade de tensions dans le Golfe, on ait tout d'un coup un incident qui dégénère, les deux pays se sentent obligés de réagir l'un à ce que fait l'autre et que ça parte en vrille et que Trump ne contrôle pas la situation.
Oui, parce qu'il a quand même une attitude assez étonnante, elle est moins étonnante maintenant parce qu'on le connaît. Dans la même journée, je crois que c'était mercredi, il a menacé vraiment les Iraniens. Et quelques heures plus tard, je crois que c'était par tweet, et quelques heures plus tard à la Maison-Blanche, il a dit que, oh, tout compte fait, il s'agissait sans doute d'une erreur humaine et que c'était une grosse erreur, mais qu'il fallait pas dramatiser.
Et il semble qu'avant-hier, pendant la nuit, il avait une attaque était prévue et qu'il l'a annulée au dernier moment. Ma tendance, c'est de penser que les États-Unis, Trump singulièrement, alors certains de ses conseillers sont plus va-t-en-guerre. John Bolton, son conseiller à la sécurité,
est beaucoup
plus va-t-en-guerre. Trump, je pense qu'il a pas envie parce qu'il pense justement à sa réélection. Il pense à sa base. Il pense à tous ces gens qui ont pas envie de guerre étrangère. Maintenant, il peut se trouver dans une certaine mesure acculé si un incident dégénère dans le Golfe, et ça n'est pas malheureusement complètement exclu. Je pense que le pari des Iraniens, c'est que Trump ne veut pas de la guerre. C'est un pari peut-être dangereux, puisque même si Trump n'en a pas envie, il peut se trouver contraint de la faire.
En tout cas, il y a des tensions dans le détroit d'Ormuz, zone dangereuse du monde. Toutes les compagnies aériennes maintenant évitent cette zone depuis hier. Et Hippolyte, qui nous écoute à Passagon, cette fois au centre du Bénin, se demande si l'ONU peut bâtir une équipe qui mène une enquête sur ce qui s'est passé, et sur, notamment sur les auteurs des attaques contre les pétroliers dans le Golfe.
Je pense que l'ONU en soi n'a pas les moyens de faire ce genre d'enquête. Ceux qui ont les moyens de faire ce genre d'enquête, à mon sens, ce sont les armées des États membres. Alors, est-ce que des États membres, ça supposerait déjà, par exemple, que le Conseil de sécurité se mette d'accord là-dessus? Je doute que les États-Unis ne mettent pas leur veto selon la façon dont l'enquête est faite, ou que les Russes ou que les Chinois ne mettent leur veto. Je serais surpris qu'il y ait une enquête onusienne, mais bon, pourquoi pas. Encore faudrait-il qu'ils aient les moyens techniques, les gens de l'ONU, de faire cette enquête-là.
Alors, direction le Caire maintenant. Yann, l'ancien président égyptien issu des frères musulmans, Mohamed Morsi, qui était âgé de 67 ans, est mort lundi après une audition devant un tribunal près de 6 ans après sa destitution par son successeur, donc Abdel Fattah al-Sissi, alors chef de l'armée, Juliette Garban.
Mohamed Morsi s'est écroulé alors qu'il s'exprimait devant les magistrats. Victime d'un malaise, il est mort peu après son arrivée à l'hôpital. L'ancien président était accusé entre autres d'espionnage. Il avait été condamné à mort en juin 2015, un jugement annulé par la Cour de cassation. Cela faisait 7 ans qu'il était en prison. Mohamed Morsi a été le premier civil à devenir président d'Égypte et le premier à être démocratiquement élu. Après la révolution de 2011 et la chute de Hosni Moubarak, il fonde le parti Liberté et Justice dans le but de briguer le pouvoir, un parti issu du mouvement islamiste des frères musulmans. Mais quelques mois après son élection, la contestation gronde, de grandes manifestations populaires ont lieu. Le 3 juillet 2013, il est renversé par un coup d'état militaire fomenté par son ministre de la Défense et chef des armées, le général Abdel Fattah al-Sissi, qui se fait élire président peu après et se voit promu maréchal. Mohamed Morsi est mort 7 ans jour pour jour après son élection. Il avait 67 ans.
Une experte des droits de l'homme de l'ONU a réclamé mercredi une enquête internationale sur la responsabilité de MBS dans le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi. Elle a réclamé des sanctions à son encontre à l'issue d'une enquête de plusieurs mois. Nicolas Falaise nous a parlé mercredi du très ambigu prince saoudien.
Il se présente en prince moderne et réformateur. Mohamed Ben Salman veut transformer l'économie de son pays en s'éloignant du tout pétrole. Il veut changer l'image ultra-conservatrice du royaume, où les femmes peuvent désormais conduire et où les cinémas ne sont plus interdits. C'est lorsque son père, Salman, devient roi en 2015 que le monde découvre son fils, MBS, prince héritier et ministre de la Défense. Le trentenaire est en première ligne de la guerre que l'Arabie Saoudite mène au Yémen, faisant des milliers de morts dans le pays le plus pauvre de la région. Mohamed Ben Salman veut lutter contre l'Iran sur tous les fronts, quitte à déstabiliser ses propres alliés, comme en 2017, lorsqu'il force le premier ministre libanais Rafik Hariri à démissionner. Ces dernières années, des intellectuels, des militantes féministes et des défenseurs des droits humains ont été arrêtés et emprisonnés en Arabie Saoudite. Et en octobre dernier, l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi a semé le trouble, y compris chez les alliés occidentaux du royaume saoudien.
Suite à d'une semaine d'actualité, nous sommes toujours en compagnie de notre ami Yann Mince, qui est spécialiste des questions internationales au magazine Alternatives Économiques, dont la une ce mois-ci est consacrée à l'aviation et cette question, faut-il arrêter de prendre l'avion? Voilà une bonne question. Nous allons revenir sur cette mort étrange, peut-être oui. Pas d'ailleurs, de Mohamed Morsi.
Moi, je suis pas très complotiste de tempérament, donc je sais pas si mon hypothèse spontanée, ce serait pas de dire qu'il a été empoisonné. Mon hypothèse spontanée, ce serait de dire que les conditions de détention étaient tellement désastreuses et cet homme était probablement tellement soumis à un stress, parce que c'est pas son premier procès, que effectivement, il en est mort.
Alors, Recep Tayyip Erdogan, lui, pense que les autorités égyptiennes ont tué.
Oui, alors tout dépend ce qu'on appelle tuer. Est-ce qu'ils l'ont tué au sens où on lui met une balle dans la tête, où on l'empoisonne, ou est-ce qu'ils l'ont tué dans la mesure où ils l'ont mis dans des conditions telles qu'il ne pouvait que finir par mourir assez vite. Donc tout dépend comment on interprète. Erdogan a toujours le sens des déclarations grandiloquentes, que ce soit en politique turque ou en politique étrangère. Bon là, une fois de plus, il fait des effets de manche.
Il faut rappeler à propos de la Turquie que demain, il y a une élection municipale importante à Istanbul. Fin de la parenthèse.
Oui, une élection importante parce qu'effectivement, le candidat de l'opposition qui avait gagné la première fois, si je puis dire, a vu son élection annulée et que maintenant on rejoue le match retour. Ce serait important d'ailleurs pour la démocratie turque que ce soit le candidat de l'opposition qui gagne. Non pas que j'ai de sympathie spécialement pour le CHP, mais ça veut dire qu'il y a une alternance possible encore en Turquie et que l'opposition peut gagner des postes importants. Mais pour revenir à Mohamed Morsi, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut se souvenir qu'effectivement, ça a été le premier, et pour l'instant donc le seul, président démocratiquement élu en Égypte. Alors on peut ne pas être sympathisant du tout des frères musulmans et considérer que néanmoins son renversement par la force était une mauvaise idée. Nicolas Fallès, je crois que c'est lui qui parlait dans son reportage des manifestations monstres. C'est vrai, il y a des manifestations monstres. Visiblement, elles ont quand même été soutenues et financées en sous-main par des proches de Moubarak et par l'armée. Donc c'était pas des manifestations totalement spontanées. Et je crois comprendre que pendant tout le court règne, si je puis dire, démocratique de Morsi, en dépit de toutes les erreurs qu'a fait Morsi, et il en a fait, tout ce qu'on appelle l'état profond, c'est-à-dire l'administration, la haute fonction publique, la magistrature, l'armée, les services de sécurité, tous les gens hérités du règne de Moubarak, lui ont savonné la planche. Et par exemple, il y avait beaucoup plus, semble-t-il, de coupures d'électricité à ce moment-là, beaucoup plus de délinquance, puisque tout d'un coup, les policiers avaient disparu des rues. Donc, il s'est quand même fait bien savonner la planche, Morsi. Et je trouve que même si son règne n'était pas terrible, ce qu'on a aujourd'hui en Égypte est largement pire.
Alors, l'actualité cette semaine, c'est aussi le Sénat américain qui s'est opposé aux ventes d'armes américaines à l'Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis et à la Jordanie. Donc, l'Arabie Saoudite pointée du doigt en tant que pays par une commission d'enquête de l'ONU, et MBS du coup est lui aussi accusé. Alors, Jamal Khashoggi.
Ça fait un moment que des parlementaires américains s'agitent pour essayer d'encadrer, de limiter, de suspendre les ventes d'armes à l'Arabie Saoudite et aux Émirats, mais surtout à l'Arabie Saoudite, qui sont tous les deux engagés dans la guerre du Yémen. C'est pas que tout d'un coup le Congrès américain est anti-monarchie du Golfe, c'est que quand même il y a la guerre du Yémen et que les États-Unis sont l'un des principaux supporters. Alors, le système parlementaire américain est très compliqué. C'est pas parce que le Congrès a voté un texte que le président peut pas s'y opposer. Ensuite, il y a des vétos, etc.
Mais enfin, il y a un contre-pouvoir quand même.
Mais il y a un contre-pouvoir. Et je dois dire que j'aimerais bien voir la même chose en France. Et que pour l'instant, je n'ai pas entendu l'Assemblée nationale, ni même la Commission de défense, s'exprimer de façon extrêmement critique. Et d'ailleurs, on a eu il y a quelques semaines, 15 jours, je crois, la publication du rapport français des exportations d'armement, qui fait du triomphalisme en disant que les ventes ont beaucoup augmenté en 2018 par rapport à 2017, mais qui jette un voile assez pudique sur qui sont les principaux destinataires de ces ventes. Et notamment, il y avait dans les éditions précédentes une infographie qui disait, voilà, au cours des 10 dernières années, les principaux pays bénéficiaires. Elle a curieusement disparu dans l'édition de cette année. Et donc, on voit mal que c'est notamment l'Arabie Saoudite qui est en deuxième place, comme les autres années, l'Inde étant en première place à cause d'un gros contrat Rafale. Mais globalement, les grands les gens les plus fidèles parmi nos clients, c'est l'Arabie Saoudite et aussi les Émirats Arabes Unis, qui sont engagés dans la même guerre du Yémen. Et on ne voit pas l'Assemblée nationale ni le Sénat français beaucoup crier comme le fait le Congrès américain.
On n'a peut-être pas suffisamment tendu l'oreille non plus.
Peut-être qu'on n'a pas été assez attentif.
Alors Mohamed Ben Salman, accusé par l'ONU en fait, d'avoir tué...
Par une experte de l'ONU. Alors faut faire attention parce que c'est pas parce qu'il y a un rapport, qu'il y a forcément un tribunal, etc. On n'en est pas encore là, il faudra déjà qu'il y ait une enquête et qu'une enquête soit diligentée par l'ONU. Là, il y a justement un rapport d'experte. Mais évidemment, c'est très embêtant pour le prince héritier saoudien qui effectivement se donne des allures de modernisateur. Le problème, c'est que dans modernisateur, c'est pas démocrate, c'est modernisateur de l'économie. Ça ne marche d'ailleurs pas parce que la diversification de l'économie saoudienne hors pétrole ne fonctionne pas encore. La société, ça marche un peu, notamment pour les femmes qui peuvent conduire, mais dont un certain nombre de militantes sont quand même en prison. Et ça ne marche pas du tout pour ce qui concerne la démocratie en Arabie Saoudite, dont on voit pas beaucoup qu'elle est progressée, et pas non plus en politique extérieure, où c'est Mohamed Ben Salman qui est le responsable du conflit au Yémen. C'est lui qui a déclenché cette guerre, c'est sa guerre et il ne l'arrête pas.
Alors, autre enquête, Yann, avec l'équipe internationale conduite par les Pays-Bas, cette fois qui enquête précisément sur le crash du vol MH17, abattu, on s'en souvient, en 2014, au-dessus de l'Est séparatiste, donc de l'Ukraine, par un missile russe. Cette enquête a donné mercredi les noms de 4 suspects, 3 Russes et un Ukrainien. Tous les 4 sont poursuivis pour meurtre par le parquet néerlandais. Anastasia Becchio.
La figure la plus médiatisée est celle d'Igor Girkin, nom de guerre Strelkov, le tireur. Fine moustache, visage toujours pâle, le ministre de la Défense de la République autoproclamée de Donetsk était célébré en héros à la télévision russe. Quelques semaines après l'explosion de l'avion, il est démis de ses fonctions dans des conditions troubles en août 2014 et regagne Moscou loin des caméras de télévision. C'est lors de la première guerre de Tchétchénie que Sergueï Doubinsky, 56 ans, aurait fait la connaissance d'Igor Girkin. Les autorités ukrainiennes le soupçonnent d'être lié au renseignement militaire russe, le GRU. Selon le site d'investigation Bellingcat, c'est lui qui avait demandé la livraison du système de défense antiaérienne Buk à la Russie. L'un de ses adjoints est également dans le viseur des enquêteurs internationaux. Oleg Poulatov, 52 ans, est un ancien officier des forces armées russes. Enfin, l'Ukrainien Leonid Karchenko, surnommé la taupe, 47 ans, était lui aussi lié au service de renseignement des séparatistes. Les enquêteurs le soupçonnent d'avoir aidé au transport et à l'évacuation du système de lance-missiles après le tir. Les 3 premiers suspects habitent aujourd'hui en Russie. Les services de sécurité ukrainiens affirment en revanche ne rien connaître du sort de Leonid Karchenko.
Alors, cette enquête est intéressante, d'autant que cette équipe internationale conduite par les Pays-Bas a décidé de continuer à la mener, cette enquête.
Oui, c'est un... Moi, ça m'a toujours, halluciné que des forces pro-russes, russes peut-être pas, pro-russes au minimum, aient décidé d'abattre un avion rempli de civils, parce que vraiment, c'est une cible invraisemblable dans un conflit, effectivement, où jusque-là, il y a des civils qui étaient victimes, mais c'était des civils, je peux dire, ukrainiens. Là, non, pas du tout, c'est juste un avion qui passe. Je me souviens qu'à l'époque, Russia Today, la chaîne pro-russe, avait expliqué que Vladimir Poutine devait se rendre en Pologne dans un avion qui ressemblait à ça, et qu'en fait, les gens qui voulaient abattre Poutine s'étaient trompés d'avion, ils avaient abattu l'avion hollandais, ce qui évidemment est invraisemblable. Mais je pense que, malheureusement, la propagande russe est capable de dire des choses absolument invraisemblables. Comme souvent chez les complotistes, plus ça a l'air invraisemblable, plus il y a des gens qui sont prêts à le croire.
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une enquête vraiment menée une enquête internationale.
Mais le parquet néerlandais n'a pas l'intention de se laisser faire, n'a pas l'intention d'oublier. Moi, je me souviens d'avoir vu des photos prises par des photographes des débris de l'avion. Et ce sont des photos qui étaient très simples. Et dans certains cas, on voyait simplement un livre pour enfants. Et on comprenait très bien qui était dans cet avion. C'est absolument abominable d'avoir fait ça. Donc, je ne suis pas étonné qu'effectivement, les victimes et ceux qui les défendent s'acharnent pour essayer de savoir la vérité.
Une semaine d'actualité.
Vous vous écoutez RFI et vous avez bien raison, nous continuons notre voyage dans l'actualité de la semaine en compagnie de Yann Mins, qui est le spécialiste des relations internationales au magazine Alternatives économiques. Et nous allons parler d'abord, Yann, du projet de réforme de l'assurance chômage en France, présenté cette semaine par Édouard Philippe, le Premier ministre. Les contrats courts sont notamment visés. Objectif affiché, faire 3,4 milliards d'économies d'ici fin 2021. Patricia Lecomte.
La réforme prévoit de limiter le recours abusif aux contrats précaires avec l'instauration d'un bonus-malus sur les cotisations d'assurance chômage. Il s'appliquera à une dizaine de secteurs, dont la restauration, l'hôtellerie, la santé, mais aussi l'audiovisuel. Le texte prévoit également une taxe forfaitaire pour les CDD d'usage, c'est-à-dire des contrats sans limitation de durée, de renouvellement ni de prime de précarité. A contrario, les entreprises jugées vertueuses verraient leurs cotisations diminuer. Le patronat est vent debout, ces mesures vont renchérir le coût du travail, alors qu'il affirme avoir besoin de ces contrats courts pour assurer le fonctionnement des entreprises. L'étau se resserre également pour les demandeurs d'emploi. Dorénavant, il faudra avoir travaillé 6 mois sur les 2 dernières années pour bénéficier d'une indemnisation, alors qu'actuellement, il n'est demandé que 4 mois de travail sur les 28 derniers mois. Selon le gouvernement, cette mesure sort 600 000 personnes de Pôle emploi, mais serait une incitation à retrouver un travail rapidement. Les syndicats contestent ce durcissement qui, selon eux, va pénaliser les plus fragiles. Les cadres supérieurs sont également dans le viseur du gouvernement. Il veut appliquer une dégressivité de leur indemnité, tout comme il veut revoir les règles permettant de cumuler un emploi et des allocations chômage.
Insolite, des élus communistes, socialistes, de la France insoumise et du parti Les Républicains étaient assis côte à côte mercredi soir à Saint-Denis pour lancer la campagne du référendum contre la privatisation du groupe ADP, anciennement Aéroport de Paris. Ils ont désormais 9 mois pour tenter de réunir les 4 700 000 signatures de citoyens nécessaires afin de déclencher un référendum d'initiative partagée, un RIP. Reportage en Seine-Saint-Denis de Marine de la Moissonnière.
L'insoumis Éric Coquerel aux côtés du LR Gilles Carrez ou bien encore du chef des communistes Fabien Roussel et de celui des socialistes, l'affiche a de quoi étonner. Eux-mêmes ont du mal à y croire, Olivier Faure.
C'est effectivement un peu nouveau pour moi, même peut-être un peu étrange pour nombre d'entre vous, de se dire que nous nous retrouvons là, dans cette diversité, alors même que nous nous combattons régulièrement sur toutes les tribunes.
Tous insistent, l'union s'est imposée car tous les partis développent les mêmes arguments contre la privatisation d'ADP. Dans un discours aux accents de gauche, Gilles Carrez résume l'idée générale. Vendre ADP, c'est vendre la poule aux œufs d'or.
Tout cet effort de la collectivité serait bradé, cédé, toutes ses plus-values potentielles au privé, c'est inacceptable.
Dans le public majoritairement composé de communistes, on acquiesce, mais on n'est pas dupe. Cette alliance de circonstances n'aura pas de prolongement, comme l'explique ce militant.
C'est un épiphénomène. La politique va reprendre tous ses droits dès demain, après-demain, etc., etc. On les connaît, nos hommes politiques.
Les parlementaires ont toutefois promis que d'autres réunions de ce type allaient être organisées prochainement, notamment à Toulouse, où la privatisation de l'aéroport en 2015 tourne au fiasco.
Actualité en France, toujours. Sachez que pour la première fois sous la 5e République, un ancien président sera jugé pour corruption. La justice a en effet définitivement validé le renvoi de Nicolas Sarkozy devant le tribunal correctionnel dans l'affaire dite des écoutes. La Cour de cassation a rejeté mardi les derniers recours formés par l'ancien chef de l'État et son avocat. Il y aura donc ce procès et d'autres se profilent peut-être. Stéphane Genest a fait un point mercredi.
Le nom de Nicolas Sarkozy revient dans une dizaine d'affaires judiciaires et l'ancien président de la République est mis en examen dans 3 d'entre elles. La première est celle du financement libyen de sa campagne présidentielle. En 2012, le site d'information Mediapart dévoile des documents qui accusent Nicolas Sarkozy d'avoir reçu plusieurs dizaines de millions d'euros pour financer sa campagne. Un financement apparemment illicite en provenance de Libye et de son ex-dirigeant Muammar Kadhafi. De cette enquête découle la deuxième affaire, celle dite des écoutes. Nicolas Sarkozy est alors placé sur écoute judiciaire. À l'occasion d'une conversation avec son avocat, les enquêteurs ont découvert que l'ex-chef d'État aurait tenté d'obtenir des informations secrètes détenues par la Cour de cassation. Enfin, le troisième dossier où Nicolas Sarkozy est mis en examen, c'est l'affaire Big Malion. Toujours durant la campagne présidentielle de 2012, différents protagonistes, dont Nicolas Sarkozy, auraient mis en place un système de fausses factures pour que les comptes de la campagne ne dépassent pas le plafond autorisé.
Suite d'une semaine d'actualité, Yann, vous intéressez davantage aux questions internationales, mais l'actualité française vous intéresse aussi. Vous vouliez dire un mot sur le référendum d'initiative partagée en marche, si j'ose dire, à propos d'ADP.
Alors, c'est très drôle parce que le fameux RIP, qui a été introduit dans la Constitution française par Nicolas Sarkozy, dont on a parlé ensuite, en 2008, est une procédure tellement contraignante qu'on pensait qu'elle serait jamais utilisée. Puisqu'il faut d'abord réunir le vote de 185 parlementaires et ensuite le vote de 10% du corps électoral, donc les fameux 4,7 millions. Et vraiment, très peu de gens pensaient que c'était possible. Et là, avec la privatisation d'Aéroports de Paris, qui scandalise beaucoup de gens à droite, à gauche, un peu partout, effectivement, on va peut-être pas y arriver, mais en tout cas, la première étape, les 185 parlementaires, est passée. Le Conseil constitutionnel a dit ils sont assez nombreux. Ils étaient, je crois, 200 et quelques, 247. Donc c'est bon. Donc maintenant, on commence à recueillir les signatures. Et entre-temps, il y a eu la revendication Gilets jaunes, mais pas seulement, du RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Et qui est quelque chose qui ne plaît pas vraiment à Emmanuel Macron, parce que le RIC, d'abord, il y a plein d'interprétations. Certains veulent pouvoir annuler une loi par référendum, ou proposer une loi, ou révoquer des élus, ce qui est en général ce qui plaît le moins aux élus. Et donc, Emmanuel Macron propose, dans une éventuelle révision constitutionnelle, de modifier le RIP pour éviter le RIC. Et donc, le RIP modifié, il n'y aurait plus l'étape parlementaire, et il n'y aurait plus que 1 million de signatures à recueillir. Donc, ça veut dire qu'il le rendrait plus probable. Mais ce sera intéressant de voir si les 4,7 millions de signatures, les promoteurs du référendum y arrivent. C'est beaucoup de signatures.
Je crois que ces jours-ci, nous en sommes à 300 000, quelque chose comme ça.
Mais donc, ça veut dire, bon, il reste 9 mois, mais la marche est quand même assez haute. Et en plus, ça concerne l'aéroport de Paris. Donc, ça concerne, enfin, je ne suis pas sûr que les gens d'un peu partout, peut-être ceux de Toulouse dont parlait le reportage, semblent concernés. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir que cette procédure, tout d'un coup, revient comme possible, alors que jusque-là, tout le monde considérait qu'elle était tellement contraignante qu'on n'y arriverait jamais.
Les ennuis de Nicolas Sarkozy avec la justice vous inspirent un
commentaire ? Il ne faut pas se réjouir des ennuis de quelqu'un, fût-il le président de la République, ancien président de la République. Ce qui est intéressant, en revanche, c'est que ce soit possible. C'est-à-dire que ce ne soit pas complètement exclu, invraisemblable, qu'un président de la République, si effectivement il a commis des faits de corruption, soit poursuivi par la justice. J'ai pas envie que les présidents soient poursuivis, parce que s'ils sont poursuivis, ça veut dire qu'ils ont commis des actes. Mais l'idée qu'il n'y a pas d'impunité, ça, c'est plutôt rassurant pour l'état de droit et pour la démocratie.
Oui. Et puisque nous parlons des affaires judiciaires, je dois préciser aussi que le tribunal correctionnel de Paris rendra le 18 octobre son jugement dans le second volet du procès des époux Balkany.
Pour nous écrire par courriel semaine.actu@rfi.fr.
Merci pour vos messages. Continuez évidemment à nous écrire, y compris à la page Une Semaine d'Actu de Facebook. Bonjour à Yann Mince, l'habitué de l'émission, comme invité d'Une Semaine d'Actualité. Et salut à mon équipe nationale de Guinée, qui d'ailleurs fera sa fameuse première sortie ce samedi 22 juin contre Madagascar. Et surtout, bonne chance au Sili. C'est signé Oumar. Je vous écris depuis Kakandé en Guinée-Conakry, note-t-il. Bonjour à Issa Barry. L'écoute est favorable depuis la Guinée-Conakry, écrit-il sobrement. Bonjour également à Dominique à Bamako, à Ferdinand à N'Djamena et à Freddy à Bangui.
Une semaine d'actualité.
Et nous allons parler maintenant des grands titres de l'actualité africaine. Et d'abord, partons pour le Mali, j'allais dire hélas, où de nouvelles attaques ont frappé lundi deux villages du centre du pays, deux villages Dogon, près de la frontière du Burkina Faso, à Bamako. Serge Daniel.
Dans un communiqué, le gouvernement malien qualifie l'attaque de terroriste et donne un chiffre, 38 civils tués et de nombreux blessés. Deux localités du centre du Mali ont été visées, la commune de Yoro et le village de Gangafani, situé non loin de la frontière avec le Burkina Faso. Sur le terrain, d'autres détails, les assaillants sont arrivés à moto, près d'une centaine de motos. Détail important, ils étaient soit à deux ou à trois par engin. Et c'est d'abord le village de Gangafani 2 qu'ils ont attaqué. Les habitants occupés aux travaux champêtres en cette saison pluvieuse qui commence ont été plutôt surpris. Les assaillants ont fait sans ménagement usage de leurs armes. Ensuite, les hommes armés se sont dirigés, toujours à moto, vers la localité de Yuro, située 8 kilomètres plus loin. Là aussi, des civils ont été tués dans les deux localités habitées par des Dogons. Les Assaniens étaient également venus voler du bétail. Un nombre important de bœufs aurait été emporté, selon deux habitants interrogés séparément. Face à la situation, le gouvernement malien informe qu'un contingent des forces de défense et de sécurité a été dépêché sur les lieux pour sécuriser les populations et leurs biens et traquer les auteurs de ces attaques.
Et le bilan de ces attaques a été revu à la hausse ces derniers jours. Ailleurs, dans le centre, d'autres attaques ont été signalées ces derniers jours, notamment sur les routes. Une situation qui pèse sur la vie quotidienne des habitants à Bandiagara, précisément, par exemple, Marie Pirolfo.
C'est la rumeur d'une attaque ciblée contre une communauté qui aurait fait fuir un imam et plusieurs habitants de Bandiagara. Et même si un démenti a été apporté, la crainte d'une attaque est restée, alimentée par les incidents à répétition qui ont eu lieu dans la zone ces derniers temps. Écoutez ce témoignage d'un habitant qui préfère garder l'anonymat.
Depuis 3 jours, la ville est en train d'être vidée, ses habitants. Des familles même entières qui sont parties. Tout le monde a peur, que ce soit Dogon, Peul et d'autres ethnies vivant à Bandiagara. Personne ne se sent en sécurité. Nous sommes sans espoir.
Pas d'espoir en l'absence de sécurité. Les seules patrouilles dont parlent les habitants sont celles de la milice Dogon, Dana Ambassagou. L'armée malienne et la force des Nations Unies ne jouent pas leur rôle, explique cet autre habitant.
L'aménagement, non seulement il voit les groupes armés, souvent qui les dépassent, ils ne disent rien. En cas d'attaque, ils n'interviennent pas. C'est vraiment l'inactivité totale. Les femmes, c'est là aussi quand il y a des attaques qu'on voit, l'air qu'on voit passer. Trop tard, souvent c'est jusqu'au lendemain qu'ils reviennent.
Les habitants de Bandiagara ont plaidé plusieurs fois pour l'installation d'un camp de l'armée malienne chez eux. Attendre à chaque fois des renforts de Sévaré à 65 km, ce n'est plus possible, répète-t-il aujourd'hui.
Yann, nous allons prendre le temps de comprendre ce qui se passe grâce à vous. Vous signez dans ce dernier donc numéro d'Alternative économique, celui de juin, un grand article intitulé « Au Mali, les djihadistes jouent les redresseurs de tort ». Vous nous expliquez que plus le temps passe et plus les djihadistes semblent se jouer des frontières en Afrique de l'Ouest. Je vous cite, et tout est mêlé en fait, les revendications politiques et les revendications de
sociales
vie concrète,
sociale, oui. Bien sûr. Je crois pas que les djihadistes puissent, comment dire, prospérer quelque part si ils ne se greffent pas sur des conflits locaux aux racines relativement anciennes. C'est pas vrai seulement des djihadistes, mais c'est vrai de beaucoup de mouvements insurrectionnels. Il faut que le président Mao Tse-tung disait, il faut que la guérilla soit comme un poisson dans l'eau. Et je crois que c'est vrai aussi pour les djihadistes, pas seulement pour les maoïstes. C'est-à-dire qu'effectivement, visiblement, les djihadistes, dans un certain nombre de cas, ont favorisé des gens, ou se sont fait les porte-paroles des gens, ou ont donné un récit, une idéologie à des gens qui avaient des raisons d'insatisfaction. En l'occurrence, par exemple, des éleveurs Peul, qui étaient en conflit avec des paysans Dogon pour des histoires de passage de troupeaux, qui pour des raisons assez compliquées est devenu plus difficile, notamment parce que le changement climatique a fait que les cours des eaux ont baissé, les cours du fleuve Niger a changé, que certains endroits qui étaient accessibles seulement à certaines saisons le sont devenus à d'autres, que certains agriculteurs s'en sont emparés, ce qui a rendu le passage des troupeaux plus compliqué. Bref, les mécanismes de régulation anciens, parce que c'est un conflit ancien, les éleveurs et les paysans, les agriculteurs, certains mécanismes de régulation anciens qui fonctionnaient ne sont plus adaptés. Et par ailleurs, il y a dans toute la région du Sahel et dans d'autres régions du monde, l'un des conflits sur lesquels les djihadistes jouent, c'est le conflit entre les jeunes générations et les notables plus installés, ou entre, par exemple, d'anciens esclaves et leurs anciens maîtres. Dans le cas du Mali, par exemple, les anciens esclaves des Peuls, les Rimaïbés, qui sont considérés, qui continuent à être considérés par les Peuls comme des gens de second ordre. Les djihadistes jouent sur toutes ces troupes, ou en tout cas des gens rejoignent les djihadistes pour redresser les torts dont ils estiment être victimes. Par ailleurs, se greffe là-dessus, on en a parlé dans le reportage, Marie-Pierre Olfan, la question des milices. L'armée.
Parce que l'armée de l'État malien est absente.
Voilà. L'État malien s'est retiré pour des tas de raisons, mais notamment des raisons sécuritaires, parce que l'armée malienne est mal équipée, que peut-être un certain nombre de soldats n'ont pas forcément envie de se battre dans ces conditions. Tout un tas d'instituteurs, d'écoles ont fermé dans ces régions, ce qui veut dire que là, on a un vide de l'État, et que faute de pouvoir se défendre ou que l'armée les défende, enfin faute que l'armée les défende, pardon, un certain nombre de citoyens, et notamment des Dogons, se sont armés en milices.
D'ailleurs, un de nos auditeurs qui s'appelle Issouf nous pose la question, pourquoi au Mali on parle de désarmement des milices alors qu'il y a toujours des massacres dans le centre du pays?
Mais le problème, c'est que les milices nourrissent les massacres. Si dans un pays, comment dire, où ça fonctionne à peu près bien, si des gens sont victimes d'exactions, que ce soit par des djihadistes ou par d'autres, ils ont deux recours, la police et l'armée. Là, en l'occurrence, ces recours-là ne fonctionnent pas. Donc, faute d'être protégés par les institutions de l'État, un certain nombre de gens s'arment et commettent éventuellement des massacres préventifs. Il faut se souvenir que le plus important massacre qui a eu lieu au Mali depuis ces dernières années, ce n'est pas un massacre commis par les djihadistes, c'est un massacre commis a priori par une milice Dogon, même si elle le nie. Donc plus de 150 personnes dans un village, habité en majorité par des Peuls. Donc maintenant, ce qu'on voit là, ce sont les répliques. Si l'armée favorise des milices qui commettent des massacres, inévitablement, des gens victimes de massacres vont se venger. Enfin, des gens, des proches des victimes de massacres vont se venger. Là, est-ce que les massacres récents ont été commis par des djihadistes? Peut-être. Est-ce qu'ils ont été commis par des milices Peuls, pas forcément djihadistes, encouragés, soutenus, appuyés par les djihadistes? C'est également possible. Mais en tout cas, on a un cycle très inquiétant de vengeance, de peur, et c'est en général comme ça que malheureusement commencent les guerres civiles.
Tenez, écoutez ce message d'un de nos auditeurs. Il écrit ceci. Nous déplorons seulement les tueries dans le monde, singulièrement dans notre continent, notamment au Mali, au Burkina, au Niger, ainsi qu'à l'est de la République démocratique du Congo, par les lâches sans âme. C'est lui qui écrit ça. Alors, sur ce sujet, j'aimerais savoir où est la fameuse communauté internationale. Cet auditeur s'appelle Jonas. Il vit à Lubumbashi, en RDC.
Ben, je vais faire une réponse inquiétante à Jonas. Elle n'existe pas, la communauté internationale. Ce qui existe, c'est un début d'organisation de la communauté internationale qui s'appelle les Nations Unies. Au sein des Nations Unies, pour faire vite, toutes les questions de paix et de sécurité relèvent du Conseil de sécurité, dans lequel il y a 5 membres permanents, les États-Unis, la Russie, la Chine, la France et la Grande-Bretagne, et des membres non permanents. Ce sont ces gens-là qui peuvent décider si oui ou non on va envoyer des forces militaires sur un terrain pour essayer de rétablir la paix. Et chacun des 5 membres permanents a un droit de veto. C'est-à-dire, s'il n'a pas envie qu'on envoie des forces, on ne les envoie pas. Et accessoirement, quand on envoie des forces, et c'est un des problèmes principaux des casques bleus, quand on envoie des forces, elles ont un mandat. Et elles ne peuvent pas utiliser la force pour faire n'importe quoi. Et souvent, elles ont peu de moyens, elles n'ont pas un mandat assez fort. Et l'un des seuls moments où on a vu effectivement des forces de l'ONU avoir une importance capitale et utiliser de la force, c'est en République démocratique du Congo, quand les hélicoptères sud-africains ont attaqué un mouvement rebelle. Mais c'est extrêmement rare. Le Mali, le Burkina, le Niger sont des pays extrêmement vastes, notamment le Mali et le Niger. C'est impossible pour la communauté internationale d'envoyer des troupes. Si quelqu'un peut protéger le Mali et le Niger, ce sont les armées maliennes et nigériennes. Il peut y avoir un appui international, mais il n'est pas déterminant.
Il faut rappeler qu'il y a la force Barkhane.
Oui, bien sûr, il y a la force Barkhane, il y a le fameux G5 Sahel.
Mmh. En gestation ?
En gestation longue, je dirais. Mais pour la faire courte, si je puis dire, jamais des États étrangers ne mettront de moyens suffisants pour remplacer les États africains défaillants. C'est aux Africains de se défendre eux-mêmes et c'est aux États africains de défendre leurs citoyens.
Sept jours en Afrique.
Et faisons maintenant escale en Ouganda, Yann, pour parler de la situation des réfugiés à l'occasion de la journée qui leur était consacrée, c'était jeudi dernier. Ils sont presque 26 millions dans le monde, dont plus de la moitié à moins de 18 ans, plus de 70 millions si on y ajoute les déplacés. Reportage donc en Ouganda, dans le camp de Bidibidi, où vivent quelques 220 000 personnes. Reportage parmi elles de Charlotte Cossé.
Liliane est assise, elle parle difficilement, elle souffre de troubles mentaux. Liliane vit depuis 2016 chez Jeannette et son mari, réfugiés eux aussi. Ils ont construit maison et poulailler à Bidibidi. Ils ont accepté de l'accueillir dans leur foyer.
Nous ne sommes pas de la même famille. Elle a des problèmes mentaux, c'est pourquoi maintenant je l'aide. Parce que si je la chasse de chez moi, elle n'aura sans doute nulle part où aller. Il n'y a personne pour accepter ce genre de personne. C'est pourquoi je fais tout pour l'aider. Mes enfants l'ont accepté car ils jouent ensemble, ils font tout ensemble.
À Bidibidi, Vision du Monde a ainsi placé plus de 1000 enfants dans des familles d'accueil ou des foyers spéciaux. Mais les défis restent nombreux, explique Solomon Okech, responsable de la protection de l'enfance pour cette ONG.
Nous avons un grand nombre de cas qui nous préoccupent. Les enfants aux besoins spécifiques sont encore nombreux. Nous avons des difficultés à lever des fonds sur les questions de violences sexuelles basées sur le genre qui affectent les mineurs. Nous avons des problèmes d'enfants délaissés qui apparaissent et les familles d'accueil d'accueil manque aussi de soutien pour les enfants qu'ils prennent en charge.
De nombreux enfants ne vont pas à l'école, s'occupent de leurs frères et sœurs ou travaillent pour survivre à Bidibidi.
En ce qui concerne les déplacés, ils sont plus de 300 000 en Ituri, dans le nord-est de la RDC. Ils fuient les violences interethniques depuis plusieurs semaines. On vous en a aussi parlé dans nos journaux. Partons maintenant pour le Soudan, Yann, où les manifestants tentent de reprendre leur mouvement 2 semaines après la répression sanglante qui a fait plus de 100 morts. Des marches sont par exemple organisées tous les soirs dans différents quartiers en périphérie de Khartoum, la capitale. Notre envoyé spécial Alexandra Bronjon a suivi l'une d'entre elles.
C'est un véritable mouvement de résistance qui s'organise dans les quartiers. Ici à Bahri, une centaine de personnes est rassemblée sur une petite place à l'écart de la rue principale pour écouter un leader de la contestation. Les gens sont tendus, regardent autour d'eux. Il faut dire que dans la soirée, le rassemblement a été déplacé à 2 reprises car les forces de soutien rapide, la milice du général Himiti, patrouillent le quartier, explique Sarah, une militante.
Ils disent que les rassemblements sont interdits, mais nous sommes ici pour dire qu'ils ne sont pas un gouvernement légitime et que nous n'allons pas obéir à leurs ordres. Oui, nous avons peur. Ils peuvent nous tirer dessus. Certains de nos amis ont été arrêtés, battus, certaines violées. Mais pour défendre notre cause, nous prenons le risque.
Les manifestants ont érigé des barricades dans les rues avoisinantes et posté des vigiles pour donner l'alerte au cas où les forces de sécurité arriveraient. Depuis la répression sanglante il y a 15 jours, la colère et la détermination ont peu à peu remplacé le choc, explique ce professeur d'université.
Nous allons continuer notre lutte, nous n'allons pas abandonner. Ce qu'il s'est passé a été un événement marquant pour notre mouvement. Cela l'a rendu plus fort, parce que c'est un véritable crime contre l'humanité qu'ils ont commis. Ils ont cru nous affaiblir, mais cela a renforcé notre détermination.
Le meeting ne va durer qu'une 30 minutes. En partant, nous croisons les forces de sécurité à moins d'un kilomètre, en train de dégager un barrage sur la rue principale.
Yann, après l'euphorie d'il y a quelques mois, c'est l'inquiétude aujourd'hui au Soudan.
Oui, c'est l'inquiétude, parce qu'en fait, ce qu'on réalise, c'est ce qu'on pouvait se douter, c'est que même si le président Béchir a été déposé, ceux qui étaient derrière lui, en tout cas une partie d'entre eux, de l'armée, des services de sécurité, n'ont absolument pas envie de laisser le pouvoir aux civils. Ils ont envie d'être ceux qui ont la dernière main sur les affaires. Ils veulent bien mettre un civil devant pour faire joli, mais certainement pas la charité du pouvoir. Et les deux hommes qui actuellement semblent dominer le conseil militaire de transition, le général Bourhan et le général général entre guillemets pour le deuxième Emeti, se connaissent bien, notamment parce qu'ils ont fait partie des Soudanais, du corps expéditionnaire soudanais au Yémen. Donc c'est-à-dire qu'ils ont de très bonnes relations avec l'Arabie Saoudite, avec les Émirats Arabes Unis, qui ont des visées sur ce qui veut se passer au Soudan, et qui n'ont absolument aucune envie que le Soudan leur échappe ou qu'il tombe sous la coupe de quelqu'un d'autre. Donc effectivement, et Alexandra Branjon, disant dans le reportage, elle parlait des forces de sécurité rapide, qui en fait qu'on appelait autrefois les Janjaweeds, c'est-à-dire des milices, qui ont commis des massacres pendant des années au Darfour, oui. Et qui risquent de commettre des choses, qui ont commencé à commettre des choses, pardon, à Khartoum, et qui peuvent en commettre encore d'autres. Et on a bien vu que quand ils ont été chargés de la répression pour lever les barrages, ils n'ont hésité devant absolument rien, tirer dans le tas, violer, etc. Et ce sont ces gens-là qui veulent continuer à contrôler le pouvoir au Soudan et certainement pas le confier complètement aux civils.
Et toujours la question des réfugiés, qui ne concerne pas simplement l'Afrique, mais qui concerne aussi le continent africain.
Oui, j'avais des images en écoutant le reportage, je suis allé moi-même dans les camps de réfugiés soudanais en Ouganda fin mars pour Médecins Sans Frontières comme membre du conseil d'administration et j'ai pu voir ce que c'est effectivement la vie de ces femmes et de ces enfants qui sont souvent privés de soutien masculin parce que les hommes sont repartis au pays et du coup des femmes qui n'ont pas forcément été habituées à se débrouiller toutes seules sont sans défense physique aussi, ce qui explique le nombre important de violences sexuelles dans ces camps qui sont commises entre réfugiés lorsque les femmes par exemple vont chercher du bois ou de l'eau et qu'elles doivent s'éloigner un peu, qu'elles sont isolées. Trop souvent, elles sont attaquées.
Il y a aussi les réfugiés en Amérique latine, il faut rappeler.
Bien sûr, on est aujourd'hui à 4 millions de réfugiés vénézuéliens. 4 millions, c'est plus de 10% de la population.
Merci Yann Ince, on va vous retrouver dans quelques semaines.
Avec plaisir.
Cet été, sans doute, entre les vacances des uns et des autres.
Absolument.
Je rappelle que vous êtes spécialiste des questions internationales au magazine Alternative Économique qui titre ce mois-ci sur l'aviation avec cette question, faut-il arrêter de prendre l'avion? Merci, à bientôt Yann.
Merci à vous.
Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rovensky. Je vous retrouve demain pour le magazine Idée. Nous y parlerons de Nietzsche, figurez-vous Yann, en compagnie du meilleur spécialiste français du philosophe allemand. Marc Delaunay, à l'occasion d'une nouvelle publication de quelques-uns de ses textes, dont Le Gai Savoir et Humain Trop Humain chez Gallimard dans la collection La Pléiade. Idée demain dimanche à 17h10, heure de Paris. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant un nouveau journal sur RFI.